par 262-90. 51, bonsoir à tous. À la technique, il y a Nicole. Au standard, il y a Bruno, il y a Jean. Et Gérard au micro pour accueillir l'animateur Grand A, l'animateur majuscule, Henri Laborie. Bonsoir, Henri Laborie.
Bonsoir, mais tu crois pas qu'annoncer la radio 100 mètres en disant 89 mètres ensuite, ça. C'est...
Ah, j'ai dit mégahertz.
Ah bon, t'as dit mégahertz.
Ça change tout. Excuse-moi d'avoir dit simplement bonsoir au lieu de dire mon cher Nobel, bonsoir.
Ah oui, 140e parcelle.
C'est la première fois qu'on accueille un Nobel, ça nous fait un peu drôle parce
Non, tu as accueilli Charles Sandberg.
Mais Charles Sandberg n'était pas
encore.
C'était l'avant-veille. Bon, rappelons brièvement pour ceux que ça étonne un peu que le prix Nobel de la paix pour 1985, c'est un jeu, un prix comme les supermarchés en font régulièrement. Bon, et là, c'est pour des personnalités généralement. Alors, ce prix Nobel de la paix a été décerné à l'International des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, l'IPPNW. Alors, ce collectif dont on va parler un peu, bien sûr. C'est a priori quand même sympathique. Ce collectif, il comprend des membres français, des membres d'honneur, dont Henri Laborie. Alors mon cher Nobel, bonsoir, j'inscris lourdement. Dont Henri Laborie, dont Léon Schwarzenberg, qui était notre invité, mais alors c'était l'avant-veille de l'attribution du prix. On n'a pas pu lui dire cher Nobel, bonsoir. Dont Georges Maté, Tony Lenné, Huguenard, Paul Milliez.
Milliez.
Milliez. Alors, tu te doutes bien, je l'ai dit avec une boutade, enfin qui vaut ce qu'elle vaut.
Concernant. Elle vaut toujours beaucoup, tes boutades.
Merci.
C'est du coluche amélioré.
Merci bien. Concernant les prix, il est mauvais ce soir, je sens qu'il est très en forme. Non, mais en clair, nous, les prix, c'est pas. On trouve que c'est quand même un cinéma. Un cinéma souvent de mauvais aloi. En revanche, on peut quand même s'étonner.
C'est parce que tu n'en as pas eu.
D'accord.
Évidemment.
Quand on en aura un, c'est de l'amertume. C'est évident. Et en revanche, cette année, on peut quand même s'étonner que des gens pour qui les prix Nobel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne citerai que le journal Le Monde, mais c'est injuste parce que je pourrais en citer beaucoup d'autres. Eh bien, ces gens-là ont accordé une place dérisoire à l'attribution de ce prix Nobel, alors même que ce prix Nobel est finalement accordé aussi à quelques Français. C'est important quand même, merde, un Français, quelqu'un de chez nous qui a le prix Nobel de la paix.
Oui, sur 140 000, quoi.
Oui, on devrait en parler beaucoup. Bah, 145 000, dit le.
145 000, bah, tu vois, je suis
145 000 médecins dans 41 pays. Hein, c'est ce que comprend l'International des médecins en question pour la prévention de la guerre nucléaire. Alors, il y a trois petits bouts de colonne en bas de page gauche. J'étais un peu étonné quand même parce qu'il me semble qu'il y aurait dû, dans l'esprit de ces gens-là, je rappelle bien que moi je ne me sens pas frustré, dans l'esprit de ces gens-là, il y aurait dû y avoir une place beaucoup plus importante accréditée au prix Nobel. On se rappelle quand même...
Ces gens-là, tu parles du monde.
Je parle du monde, mais c'est injuste parce que les autres journaux, c'est un peu pareil, on peut parler. Alors, quand on voit la
prospérité, le jour où il a été décerné, j'ai reçu un coup de téléphone au laboratoire, me disant c'était un journaliste du Monde, je ne me souviens pas le nom.
Franck Mouchy.
Bon, ça ne fait rien. Et il m'a dit, mais c'est un le Monde n'est pas considéré comme un journal d'extrême droite. Il m'a dit, mais c'est un prix crypto, c'est une association crypto-communiste. Alors, et ça a été, hier soir, il y a eu une réunion, une conférence de presse, qui m'a demandé d'assister. Ça me... ce genre de cinéma, mais enfin...
Bon, donné par qui?
Par l'association,
d'accord,
par le président, ouais, de l'association. Et ça recommençait. C'est-à-dire que comme il y a là-dedans des Russes, c'est crypto-communiste.
Il faut peut-être préciser une chose pour l'auditoire, Henri Laborie, c'est que ça aussi, ça apparaît sympathique vu le reste et l'ambiance, c'est que les deux présidents de cette association...
Il y a un Américain
et un Soviétique. Oui. Bon, deux médecins. Bon, c'est un côté, pour une fois, ils se retrouvent.
Tu sais, c'est les médecins, c'est un peu dans leur, métier, ils ont l'habitude de voir la mort, et je pense que qu'on soit russe ou qu'on soit américain, on a aussi peur de mourir, et en particulier avec une bombe atomique sur la figure. Donc je pense que... Mais l'américain n'a pas a demandé à être reçu par Reagan, il ne l'a pas été. Alors, tout ça c'est, de la, de la petite magouille. Si on continue même dans des... dans l'appréciation qu'on a de cet événement, à développer encore des vues particularistes en disant « Ah, oh, c'est un communiste, ou un crypto-communiste, ou c'est, on n'en sort plus,
c'est plus la peine. » C'est marrant parce qu'il y a, quelqu'un de ton association, le professeur Miliez.
C'est ce que j'ai répondu d'ailleurs.
Qui regrette que le prix Nobel de la paix n'ait pas été attribué à l'abbé Pierre. Mais c'est quand même incroyable.
Il y a raison et non, je pense que l'abbé Pierre devrait avoir nommé. Mais l'abbé Pierre, Dieu sait, j'admire ce type et je l'aime beaucoup, c'est un homme absolument remarquable et extraordinaire, mais c'est plus focalisé, là, et c'est plus français, si l'on peut dire. Là, c'est vraiment une association vraiment internationale, et c'est ce qui m'a fait y adhérer, d'ailleurs, quand on m'a demandé de faire partie de ce comité directeur. J'ai répondu une lettre, j'aurais dû la porter, j'aurais dû penser aussi que tu m'aurais interrogé là-dessus ce soir. J'ai répondu une lettre en disant, mais je ne peux pas vous refuser. Maintenant, je suis très pessimiste sur votre mode d'action et sur l'impact que vous pourrez avoir.
Tu es membre d'honneur ou membre du comité directeur ?
Je suis membre du comité directeur.
Ah oui, d'accord. Tu es présenté dans le monde, là, comme membre d'honneur.
Si tu veux, quoi.
Partie du comité d'honneur, là. Oui, partie du comité d'honneur. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas... c'est la première idée que j'ai eue, je ne sais pas si elle est bonne. Est-ce que ce n'est pas parce que, d'une part, il s'agit d'un prix Nobel collectif, que apparemment la presse a été un peu agacée, qu'il n'y ait pas une tête à monter au nu, d'une part, et d'autre
c'est
part...
C'est possible aussi, effectivement.
Et d'autre part, parce que...
Il y a bien les hommes providentiels.
Parce qu'il n'y a pas de nom bien institutionnalisé dans cette association, enfin, des gens comme toi, Laborie, ou comme Schwarzenberg...
Oui, on est plutôt marginaux.
Vous êtes plutôt frontières.
Ah ben non, mais quand même, Mathé,
y a Mathé
et Emiliès sont... c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs au journaliste du Monde quand il m'a téléphoné. Je lui ai dit, écoutez, vous parlez de crypto-communisme, enfin, dans le comité d'honneur, il y a Emiliès et Mathé, on peut pour dire que ce sont des gens de... évoluant vers la gauche, hein, ça serait plutôt...
C'est pas des gauchistes, non, non.
Non, on peut pas dire ça.
Pas du tout, non.
Du tout. Alors... dire que c'est crypto-communiste, mais uniquement parce qu'il y a des communistes dedans, mais... nous ne sommes pas, j'ai répondu d'ailleurs, nous ne sommes pas la secte Moon. La secte Moon est internationale, mais uniquement avec les pays occidentaux, les pays de la liberté, les pays du monde occidental, les pays libres.
Mais en plus, l'IPPNW, c'est les initiales de l'organisation, de l'association...
L'hiver nucléaire. Justement, du fait que cet impact, enfin, cette approche internationale, c'est pas la bombe qui va tomber sur Besançon ou Bécon les Bruyères, c'est l'ensemble des bombes, le quart ou le cinquième de ce qui est stocké actuellement, qui ferait disparaître toute vie sur la Terre. C'est ça qui est grave et dangereux.
Elle a son siège central à Boston. Ce qui, pour une organisation crypto-communiste, lorsqu'on connaît la sévérité des autorités américaines concernant les associations et leur contrôle, fait un peu marrer. Pourtant, le titre de l'article, du court article du Monde, est assez vachard. Enfin, un coup de pouce aux thèses pacifistes. Alors, les pacifistes, on pense tout de suite, effectivement, aux agents soviétiques. Ouais.
Bon, il y a des agents secrets partout. Je crois que Greenpeace le montre et l'a suffisamment démontré. Il y a des agents français infiltrés partout, des agents anglais, des agents américains, des agents russes. Je crois que le CIA n'a rien à oublier à personne.
Techniquement, comment que ça se passe? C'est l'association qui a le prix Nobel ou chaque membre?
Ah non, c'est l'association. C'est l'association qui a le prix Nobel. Comme le mois prochain, je vais partir aussi d'une autre association qui est Amnesty International. Je vais faire une conférence à Liège, Amnesty, et... Amnesty a eu le prix Nobel aussi, et c'est l'association qui a le prix Nobel.
Et ça, donc il y a des précédents, c'est pas le premier collectif.
Ah non, le prix Nobel de la paix est donné assez souvent à des collectivités.
Des collectivités. On regrette que ce ne soit pas Médecins sans frontières aussi. plusieurs médecins, alors c'est très, très flou, ça, plusieurs médecins regrettent en particulier, sans doute ceux qui ne sont pas dans ce choix-là, regrettent en particulier que le choix des jurés d'Oslo ne se soit pas plutôt porté sur une association telle que Médecins Sans Frontières, que l'on dit nobelisable depuis plusieurs années.
Oui, mais pourquoi? Oui,
alors,
mais
pourquoi pas, Henri Laborie, vous avez volé un prix Nobel. qu'est-ce que tu penses de l'institution Nobel?
Non, le prix de la pêche, je connais mal. Les prix de littérature aussi. C'est beaucoup plus difficile de juger. Ce que je reconnais, c'est que les prix Nobel... Tu sais, tous les ans, il y a 50 personnes qui méritent un Nobel. Et je pense que le jury a des difficultés à se décider. Alors, il y a des quantités de facteurs qui interviennent. Mais quand il est décerné à quelqu'un, en général, sur le plan scientifique, c'est que la personnalité a fait époque. Maintenant, je te dis, tous les ans, il y en a 50 qui pourraient être nobelisables. Et c'est qu'ils ont apporté quelque chose d'indiscutable. Pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt du prix Nobel.
Je suis pas trop satisfait de la réponse.
Pourquoi?
Tu trouves que c'est une institution qui a raison d'être?
Il y a des tas de choses dans ce que tu me demandes là. C'est une institution qui est prise, tout le monde le sait.
Quand je dis
parce que Nobel a inventé la dynamite. Bon, il a eu des remords à sa fin de sa vie, il a dit bon, on va peut-être faire autre chose. Alors, on peut discuter ça, mais enfin, en fait, la récompense, quand elle est la motivation, comme c'est aux États-Unis assez fréquemment, la motivation du chercheur est assez désagréable, j'en conviens. Quand on ne cherche pas et qu'il vous tombe dessus. C'est une reconnaissance d'un travail par la communauté scientifique internationale, si tu veux. Et d'autre part, je dirais, j'irai plus loin, j'ai même écrit dans un livre, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ça, toujours d'ailleurs, enfin, refuser le prix Nobel et la Légion d'honneur, c'est montrer qu'il y porte un intérêt. Et il avait une image de lui-même, mais alors là, je suis biologiste des comportements, et je sais comment, quelles sont les motivations des gens. Il avait une image de lui-même que les autres lui avaient fait, et à laquelle il devait se conformer. Il aurait accepté le Nobel, il aurait immédiatement été vu différemment. Et le fait de l'avoir fusé, il ne pouvait pas faire autrement. Il n'était pas libre, c'était la peau de la liberté, il n'était pas libre. Ouais, c'est là, une preuve. Sartre est une preuve de la non-liberté des gens. Parce que s'il avait été vraiment libre, puis il aurait dit, je veux bien, ça me fout. Et s'il n'avait pas attaché de l'importance au Nobel, il n'aurait pas refusé.
Mais enfin, s'il considère que, me faire défenseur de Sartre, ça me gêne un peu, mais s'il considère que cette institution fait partie d'un ensemble qui ne lui convient pas, il n'a effectivement aucune raison d'accepter quelques reconnaissances de par ces gens-là.
Oui.
Ainsi, des gens refusent de se présenter devant le maire pour légitimer
un... Ah, c'est autre chose. Et là, on leur demande...
C'est pareil.
Ah non, absolument différent. Se présenter devant le maire pour légitimer un rapport sexuel, par exemple...
Des rapports, soyons optimistes, des rapports...
Bon, mais ça, c'est obéir à une loi. Alors que quand vous décernez le prix Nobel, tu peux rien, tu ne demandes pas le prix Nobel. C'est une des rares choses qu'on n'a pas à demander. Tu ne te portes pas candidat, c'est pas comme en politique.
Enfin,
en politique, on ne peut pas dire tu n'es pas président de la République ou député ou maire ou même conseiller municipal gratuitement. Il a bien fallu que tu fasses un effort, c'est-à-dire te présenter et dire ça m'intéresse, mes concitoyens, vous allez voir ce que vous allez voir avec moi, je suis plus bécouille que les autres, vous allez voir ce que vous allez voir. Quoi. Bon, attendez-vous à des transformations profondes de votre existence. Tu dis pas ça, on te fout un prix, bon, bravo. Il n'y a pas besoin d'être agressif gratuitement, c'est pas la peine.
Enfin, Laborie est contre la compétition, enfin, il la constate, mais il ne l'approuve pas.
Et en quoi il y a un prix Nobel, puisque c'est le prix Nobel
Être primé, ça rentre quand même dans le cadre de la compétition, d'une compétition.
Non.
Non.
À mon avis, non, parce que ça ne donne pas... Si tu considères que d'être primé te donne un pouvoir, ce qui est vrai aussi, d'ailleurs.
Alors.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Mais... Tu peux très bien, toi, ne pas considérer que c'est un pouvoir. et ne pas te servir de ce pouvoir. C'est les autres qui te donnent ce pouvoir. Et moi, je suis pas obligé de croire que les autres. Ça, j'y suis pour rien, moi, sur la façon dont ils envisagent le Nobel Laboratoire, par exemple, ça te déplaît. Mais un autre qui dira, bon, bah, il est Nobel, ah, bon, alors. Bon. Et donc, les avis sont extrêmement différents, et moi, l'avis des autres, je m'en contrefous. Ça m'intéresse.
C'est pour ça que je te demande le tien.
Eh bien, moi, mon avis, je te le dis, c'est que. Je n'y arriverai certainement pas maintenant, mais enfin, on donnerait le Nobel que j'accepterais. Pourquoi ça me semble évident. Enfin,
dans un de tes bouquins, tu te moques de celui qui porte la tache de sang sur le revers de veste, c'est-à-dire la Légion d'honneur.
Oui, mais j'ai la rosette, moi, figure-toi, on me l'a donnée. Bah, on va dire. Alors, quand on m'a demandé.
Tu te moques de ceux qui la portent ostensiblement, mais.
Je ne la porte jamais. Hein, je ne vais pas utiliser une petite rosette à la boutonnière.
Ni tatouée sur la
clavicule. Oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Hein, je ne laisserai pas au vestiaire ou à côté des chiottes quand je vais au restaurant, sur un par-dessus. Parce que la mettre sur un par-dessus, alors ça, c'est vraiment le comble de l'horreur. Puis moi, si tu
est-ce
veux
que...
Mais, tu vois, c'est, dans l'action d'un individu, il y a toujours la réaction des autres par rapport à ça. Et s'ils s'intéressent à cette réaction... Il ne peut plus vivre, c'est pas possible. Hein, parce que, ou alors il faut qu'il fasse un sondage à chaque fois pour savoir s'il a 70% des voix pour et 30% des voix contre. C'est pas possible. Il y a une agressivité qui n'est pas. Je dirais qu'on m'a. Plus récemment, on m'a offert. On m'a envoyé les papiers parce qu'on voulait me mettre, me donner le titre de commandeur de l'ordre du mérite. Bon. Une première fois d'ailleurs. Puis alors cette fois-là, j'ai répondu.
Pas que... Note bien qu'ils ne sont pas rancuniers.
Non. Mais j'ai répondu une première fois que j'aurais préféré que.
Un Nobel ou rien.
Mais non, je termine quand même l'histoire. J'aurais préféré qu'on me donne un moyen de travail, que l'État me donne un moyen de travail décent depuis pas mal d'années, depuis 30 ans. Et que je laissais. Papier que j'avais mis, parce qu'on m'avait demandé, j'ai refusé, puis j'ai pas bien signé. Alors on m'a renvoyé les papiers en me disant, ça ne peut pas se passer comme ça, vous mettiez une note indiquant vos raisons, etc. Bon, alors, puisqu'il voulait que je signe, j'ai dit, il faut que vous mettiez, je refuse cette décoration, et signer. Bon, alors j'ai dit, je refuse cette décoration, etc. Puis j'ai dit, mais c'est bien volontiers que je laisse cette récompense, pour quelqu'un d'autre dont elle pourra combler le narcissisme insatisfait. Bon, et puis il s'est recommencé 10 ans après, on a recommencé. Et là, c'est un des assistants du laboratoire qui est dit Topal qui me dit, mais je ne comprends pas, monsieur. Si, ça ne vous fait rien, ça ne vous intéresse pas. Je dis non, ça, alors non, alors j'avais refusé. En plus, j'ai eu une belle lettre, en plus, j'étais tout content de moi, si j'avais fait une belle lettre à la Sarthe, tu vois. Je me prenais pour mon petit Sartre, quoi. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas, monsieur, si vous en foutez, là. Laissez-leur vous donner, quoi, ça me semble évident. Alors, je n'ai pas fait de lettre de remerciement, mais puis je voulais que je remplace du papier, je remplis les papiers. Alors, on m'a envoyé... un inspecteur de police qui est venu m'interroger pendant, parce que quand même, on fait une enquête, on n'a pas de données.
La réalité.
Moralité, là.
Heureusement.
Alors, je lui ai expliqué ce que je suis en train de dire actuellement. Alors, tu ne m'étonnes pas que je ne l'ai jamais eu. Mais alors là, ça ne fait rien. On me demande. Mais là, on me demande. Et alors là, je réponds. Je dis non, là, je m'en fous. Bon. Et on m'envoie des papiers. Bon, je les remplis. Il n'y a pas besoin d'être agressif. Le fait d'être anarchiste. N'oblige pas obligatoirement à être agressif envers ses contemporains si d'autres y croient. Pas parce qu'ils y croient, moi, ça ne me gêne pas. Et si on considère que bon, mes services exceptionnels à la nation ou à l'État valent une récompense de cet ordre, bah, qui me la donne. Moi, je ne travaille pas pour la nation ou pour l'État. Je travaille pour moi, pour me faire plaisir, me faire plaisir avec les gens qui sont autour de moi, c'est tout. C'est une drôle de façon d'être anarchiste que tu as.
Radio Libertaire, Henri Laborie, au 262-90-51. Radio Libertaire, humeur, toujours en compagnie de Henri Laborie, jusqu'à 20h30. L'actualité, entre autres choses, Henri Laborie a beaucoup fait parler de Le Pen.
Oui, ce type de politique politicienne, comme on dit, c'est à la mode, c'est bien la politique politicienne.
De toute façon, c'est pas plein d'âge.
Oui.
Vous voyez comme il est, hein, je prends tous ceux présents dans le studio à témoin, hors antenne, il disait, oui, à cause de Gérard, je ne verrai pas ce soir Le Pen à l'heure de vérité.
Ah, mais c'est complètement différent, ça.
Le spectacle, t'intéresse.
Non, porter un jugement sur un homme, c'est une chose. Mais le voir, et mais même les fous, je suis intéressé par leur discours, je sais. C'est mon boulot, moi, c'est ma vie journalière, de savoir, non pas ce que porte le discours, ce que dit Le Pen, je m'en contrefous, mais de savoir ce qui anime le discours, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi un homme dit-il ça? Quelles sont ses pulsions? Quels sont ses apprentissages culturels? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il a d'inassouvi? Est-ce qu'il baisse mal? Et ça se voit sur une gueule. Et surtout un type qui parle, ça,
oui,
ça tout seul.
Alors, tu peux nous renseigner?
Non, je ne l'ai pas regardé suffisamment, je dois dire, parce que, tu sais, je ne regarde pas la télévision. Ce n'est pas une de mes sources d'information, les principales. Hein. Je préfère...
Il y a un portrait clinique et mental de Le Pen qui a été donné par son ancien bras droit. Dans la presse, il le traite de paranoïaque parfait.
Ça ne m'étonne pas, oui, d'ailleurs, mais c'est pas un jugement de valeur, dit un homme qui est paranoïaque.
Mais
la société l'a rendu. Qu'est-ce que c'est que le paranoïaque? La d'ailleurs définition qu'on en donne, d'ailleurs, c'est la définition classique, c'est l'agresseur agressé. C'est-à-dire qu'il soit toujours agressé et qu'il devient agresseur parce qu'il se croit agressé. Tout le monde lui en veut et il en veut à tout le monde. Ça, la définition de la paranoïaque.
L'agressé-agresseur, alors.
Oui, l'agressé-agresseur, comme tu voudras. Et le peu que je sache, quand on en parle de Le Pen, c'est assez paranoïaque. Mais bon, il est paranoïaque et alors, il n'a pas le droit d'être paranoïaque? Mais non, mais c'est ça la tolérance. Comment c'est que c'est pas de sa faute s'il est paranoïaque? Il y est pour rien. Il a été élevé, il a grandi dans un ensemble de facteurs qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est. Que nous le regrettions pour. C'est autre chose. On peut regretter, mais pas juger. Toute chose, juger.
Non, mais pour parler de tolérance, que fait-on lorsqu'un individu comme Le Pen soulève comme il le fait? C'est pas une interprétation, c'est pas une analyse, c'est des faits. Soulève la haine raciale, par exemple.
L'empêche de soulever la haine raciale.
Alors,
si Dieu veut, ça,
bon,
d'accord.
On l'empêche de soulever la haine raciale. C'est-à-dire qu'on l'empêche de parler? C'est de la tolérance, alors.
Oui, mais non. Mais tu as raison. Non, mais tu as raison. C'est très difficile. J'ai été appelé il y a quelque temps à faire deux jours d'exposé à la prison de Fleury-Mérogis.
Deux jours,
il y a six mois ou un an, enfin je sais pas. Et je suis arrivé à convaincre tous les directeurs de prison de la région parisienne que la prison n'était pas faite pour punir. Punir, c'est considérer qu'un monsieur, c'est se mettre juge et porter un jugement sur quelqu'un. Pas sur les tailles, parce que c'est genre, quand on a vu ce que c'est, faire un enregistre, et je vais raconter une autre chose, qui sort d'hier ou d'avant-hier. Mais j'ai dit effectivement une société qui considère qu'elle doit éviter que l'on tue, qu'on assassine, etc. Il ne s'agit pas d'emprisonner. Moi, j'avais proposé, ça a l'air complètement délirant, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit une solution, de réunir ces gens-là dans une île, où ils pourraient vivre libres dans cette île, hein, et entre eux. Et parce que un ensemble social a aussi des droits, même sans juger, le fait qu'un certain nombre d'individus dans cette société ont été placés dans des conditions sociales qui l'amènent à être criminel, tu ne vas pas juger cet acte criminel, je m'interdis de juger. Et on peut comprendre que l'ensemble humain veuille se protéger de ça. Non pas punir, mais se protéger. Alors se protéger, foutre en prison, c'est pas se protéger. Ça, c'est pas la solution, à mon avis. Et je vais te raconter une histoire qui est assez amusante. c'est assez amusant, assez triste. Il y a un an, à peu près ou deux ans, je reçois une lettre d'un prisonnier de la santé qui me demandait un de mes livres. Gracieusement, bien sûr. Malheureusement, il n'a pas de quoi se le payer. Je l'ai envoyé. Le livre non ouvert m'a été renvoyé avec le tampon du vague-mestre interdit. Le vague-mestre. Bon.
Quel livre ? Tu te souviens plus ?
Attends. Attends. Et avant-hier, il y a trois jours, je reçois, après, alors je reçois une lettre, il y a 15 jours, la lettre que tu m'as donnée.
Oui, bon. Un de nos auditeurs. Oui.
Voilà, j'ai envoyé le livre qui m'était demandé.
Oui, Éloge de la critique.
Attends.
Pardon.
Côté bavard. Alors, je reçois le paquet non ouvert, d'ailleurs, avec le tampon du vague-mestre, interdit, le vague-mestre, bon.
C'est de la fin.
Alors là, je dis, ça peut pas quand même continuer comme ça, je trouve ça un peu violent. Alors, je prends mon téléphone, et j'appelle Badinter. Et je lui dis, voilà ce qui s'est passé, je trouve ça révoltant. Et Badinter, très gentiment, me dit, ben, moi aussi, c'est révoltant, hein, parce que, surtout que, vous voyez, qu'on ne peut pas se faire entendre, j'ai fait, il y a deux ans déjà, j'ai fait une circulaire disant que tous les livres, devaient, quels qu'ils soient, devaient rentrer à la dans les prisons. Bien. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ouais, je dis, c'est l'éloge de la fuite. Il me dit, quoi ? Je dis, oui, l'éloge de la fuite. Il me dit, c'était la fuite des prisons ? Ben, je dis, non, c'est l'ordre des sceaux, c'est simplement la fuite dans l'imaginaire, la façon d'éviter d'être prisonnier de ces automatismes, de tous ces apprentissages culturels.
Comme un geôlier, on peut le lire.
Mais là, Badinter n'y était pour rien. Enfin, au contraire.
Il est con comme un joli.
Alors, il m'a dit, envoyez-moi tout de suite, je vais je m'en occupe, envoyez-moi tout de suite. Alors, je lui ai envoyé le paquet avec la lettre du gars, qui était charmante d'ailleurs, tu l'as vu.
Oui.
Pas mal écrite d'ailleurs non plus. Avec le tampon du vague-mestre. Et puis, je lui ai dit, ben voilà, quand même, il faudrait peut-être éviter que des choses-là se reproduisent. C'est invraisemblable, quoi. Qu'un prisonnier n'avait même pas le droit de lire, même si c'était Bakounine et les pires des...
pires des saloperies, disons-le.
c'est anormal. Ça.
C'est incroyable. Que l'auditeur, d'ailleurs, qui nous écoute, veuille bien nous écrire pour confirmer qu'il a bien reçu le bouquin. Parce qu'ils ont peut-être fait un autre barrage encore, ou ils l'ont peut-être égaré, c'est une autre méthode.
Avec Badinter, oui. à la au démarrage, ça m'étonne. Celui-là au moins arrivera, les autres j'en sais rien. Bon, enfin, celui-là,
C'est vrai que c'est tristement savoureux comme anecdote.
Quoi. Oh, c'est fantastique. La première fois, j'ai dit, bon, bah, je ne peux rien. Puis la deuxième fois, j'ai dit non, c'est pas possible.
Radio Libertaire 89.4, la voix 100 mètres, toujours en compagnie de Henri Laborie. Jusqu'à 20h30. Oui, il y a un animateur de l'émission Prison de Radio Libertaire nous précise que un simple particulier ne peut pas, malgré les directives humanistes de Robert Badinter, envoyer de livres aux prisonniers. Il faut soit être muni d'un permis de visite, soit être muni d'un permis de visite, être visiteur,
oui.
Soit être une maison d'édition. Ou une association. Ouais. Un simple particulier ne peut pas envoyer de livres.
Ouais, tu vois, je suis d'une association nobelisée.
Alors, oui, alors ce qui faisait dire aux copains de l'émission Prison que finalement le vague-mestre dans l'histoire, il apparaît moins idiot que Badinter.
Oui, bon, oui.
Moi, je veux. Parce que Badinter a toujours raison dans son histoire. Hein, c'est pour ça qu'il. s'empresser de donner ce genre de précision.
Ce qui montre bien que tous les avis sont dans la nature et que tous les actes... Alors là, je dirais, est-ce que, je l'ai dit souvent ici, est-ce qu'un acte humain est fait pour l'espèce ou il est fait pour un groupe ? Est-ce que le vague-mestre en obéissant au règlement travaille pour l'espèce ou il travaille pour le groupe ? Et là, tu vois une application immédiate de ce que je dis.
Oui, mais quand Badinter te dit qu'il a donné consigne pour que tout livre, quel qu'il soit, soit accessible à la prison, c'est vrai et faux. C'est très jésuitique comme réponse, parce que c'est vrai à condition que, et les conditions, elles sont très, très rigoureuses.
Ah, il n'a pas eu l'air de trouver que, quand je lui racontais mon histoire, que...
Il n'allait pas te répondre que tu n'es qu'un simple particulier, Laborie. Et pourtant, aux yeux du vague-mestre, effectivement...
Oui.
cas. Bon, alors je voudrais qu'on en revienne.
Il devait y avoir d'ailleurs, au contraire, sur l'enveloppe, il y avait certainement le cachet de du laboratoire, qui est une association de 1901.
Ah, donc alors, il aurait pris en faute là, Bon, allez, la santé ou freine pour pas d'intérêt de l'admettre.
Quoi ?
Non, c'est une très mauvaise plaisanterie. Alors, revenons-en, si tu veux bien, à partir de cet exemple que tu nous as procuré, l'exemple des prisonniers. Bon. Revenons-en au cas Le Pen. Le Pen
qui a donc avant de passer au cas Le Pen, je voudrais te faire remarquer que cette solution de l'île abandonnée à des...
Oui, ça te fait marrer.
Des hors-la-loi. Non, mais ça a été fait déjà fréquemment, quoi. Vous pensez que l'Australie a été peuplé par des convicts qui ont signé d'oublier tous les canaques du coin. Alors ça, ils ne sont pas posés de problème. Et puis, la Nouvelle-Calédonie, qui est pas loin, a été peuplée par des gens de la de 48. Enfin,
71
des communards, bon, 71.
Enfin, ils étaient en prison, ils n'étaient pas en liberté sur l'île. Ils étaient
dans... Oui, j'ai même visité la prison de... comment s'appelait-elle, cette... célèbre, Louise Michel. Oui, mais enfin, c'est quand même, ils ont été libérés, c'est eux qui sont actuellement constitués.